Margot Delpierre, journaliste radio, et Thomas Langlin, technicien du son, ils nous font découvrir les coulisses de la création par la voix de ceux qui font la culture. Vous pouvez retrouver l'ensemble de leurs podcasts à l'adresse podcast.ocha.co/backstagelepodcast, podcast.ocha.co/backstagelepodcast, tout attaché. Aujourd'hui, première partie de l'entretien consacrée donc à Hervé Deluze, monteur cinéma, au micro de Margot Delpierre sur un montage de Thomas Langlin. Je préciserai que cet entretien avait été enregistré en 2019.
On m'a souvent appris que le montage, au fil du temps, à chaque fois que je voulais m'en confier moi-même la tâche, était un travail un peu de l'invisible. Et que si les gens n'en parlaient pas, c'était tant mieux.
Bonjour et bienvenue dans Backstage. Son nom ne vous dit rien, il figure pourtant sur les affiches de vos films préférés. Hervé Deluze est l'un des grands monteurs français, récompensé 3 fois au César et nommé aux Oscars pour Le Pianiste en 2003. Il a travaillé sur de nombreux films de Roman Polanski depuis Tess, sorti en 79, mais aussi d'Alain René, Claude Berry et Guillaume Canet, dont il signe le montage de son dernier long-métrage « Nous finirons ensemble ». De la pellicule au numérique, comment a évolué le montage depuis ses débuts dans le métier? Quelle liberté a-t-il? Quelle relation s'installe avec le réalisateur? Hervé Deluze nous raconte l'envers du décor.
Backstage, un podcast présenté par Margot Delpierre.
Bonjour Hervé Deluze.
Bonjour.
Comment vous avez commencé à travailler avec Roman Polanski?
Ça, c'est assez miraculeux et spécial. En fait, moi, j'ai commencé dans le montage, parce que j'avais commencé dans le cinéma en faisant des reportages, mais c'était trop proche du journalisme et pas assez proche du cinéma pour moi. Donc après, j'ai viré vers le montage et j'ai commencé vraiment à monter des courts-métrages plutôt expérimentaux. J'étais vraiment dans le cinéma underground. Et puis, on m'a proposé 3 semaines d'assistanat sur Tess. J'avais jamais fait l'assistant et c'était pour faire juste des conformations. Enfin, c'était un boulot purement technique où j'étais pas censé rencontrer qui que ce soit. Donc j'ai travaillé 3 semaines, ces 3 semaines-là, pour me faire un peu de pognon. Mais là, c'était comme servir dans un restaurant, quoi. Ça avait rien à voir avec le cinéma, vraiment, quoi. Et en fait, il s'est avéré qu'après, il a fallu remonter Tess pour l'Amérique parce que la version était trop longue. Et donc, ils ont fait venir un monteur américain. Et il fallait quelqu'un de l'équipe pour le seconder, parce qu'il connaissait pas du tout le film. Et il y avait plus personne à Paris. J'étais le seul à Paris. Donc, on m'a appelé pour seconder ce type-là, qui était Sam Austin, qui était l'espèce de docteur montage mondial. Il bossait pour la Warner et c'est le monteur le plus payé au monde et tout. Et il est resté 3 semaines à remonter le film. Et en fait, Roman n'était pas là. Il était en vacances. Il faisait du trekking, je crois, dans le Népal. Enfin bon, il y a eu des intempéries. Il a pas pu revenir à temps. Donc, Sam Austin a été obligé de repartir aux États-Unis. Et donc, moi, j'ai arrangé les sons parce que j'avais fait du montage son de la version de Sam Austin. On l'a montré à Roman. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, c'est pas terrible. Ça ressemble à un polar maintenant. Et il était halluciné de voir ce petit mec qui était inconnu et tout, qui parlait comme ça. Il m'a dit, on le revoit demain matin, le film. Et le lendemain matin, il m'a dit, bon, on s'y met. D'accord, c'est pas terrible. Et du coup, j'ai remonté avec lui. Et après, il m'a convoqué dans le bureau de Claude Berry. Il a dit, voilà, je vais faire Pirate, qui est un très gros film. Je le fais avec Hervé. Voilà. Donc, c'est parti comme ça.
Vous vous rendiez compte de la personne à qui vous parliez à l'époque?
Oui,
en
mais
lui
à l'époque,
disant, c'est pas terrible.
À l'époque, à cause de mon expérience dans le cinéma underground, j'étais complètement insolent, ce que je suis plus du tout maintenant. Mais quand après Claude Berry m'a demandé de remonter Je vous aime, suite à justement à Tess, il m'a montré Je vous aime. Et en projection, j'arrivais pas à parler. Et au bout de 5 minutes, il me dit, bah alors, dites quelque chose. Je dis, c'est consternant. Personne lui parlait comme ça. Et à l'époque, j'avais pas de conscience de ce que je faisais. J'étais pas du tout dans le milieu du cinéma commercial. Donc, je parlais comme un ado, quoi, un peu.
Vous êtes arrivé là en autodidacte?
Oui. J'ai appris beaucoup parce que j'ai travaillé avec Henri Langlois à la Cinémathèque. Et en fait, on n'avait pas beaucoup de travail dans l'après-midi, on travaillait le soir surtout. Mais on voyait énormément de films. Donc, je voyais 3 films par jour pendant 1 an, pratiquement. Ça et les cours d'Henri, c'était mon université de cinéma, quoi. Parce que j'apprenais beaucoup avec les films muets. Et lui, ses cours de cinéma, c'était quelque chose de fabuleux parce que il parlait pendant 10 minutes où il faisait un peu un historique et tout. Et ensuite, il passait des extraits de films. Et c'était du pur montage, juste des bobines, l'enchaînement des bobines qui montraient, c'était une leçon de montage, quoi. C'était hallucinant. Ce type qui avait jamais fait de film, mais il avait un sens du cinéma fabuleux.
Qu'est-ce qui vous a plu tout de suite dans le montage?
Je crois que c'est vraiment raconter les histoires d'une façon complètement étonnante à chaque fois. Comme disait Truffaut, il n'y a pas de nouveaux sujets, il n'y a qu'une nouvelle façon de les raconter à chaque fois. C'est toujours les mêmes sujets qui reviennent. Et c'est ça qui me plaisait, c'est de trouver une nouvelle façon de raconter les histoires. Ça me plaisait beaucoup, ça, de surprendre avec la façon de raconter.
Donc vous avez une responsabilité énorme en tant que monteur.
Oui, oui, sûrement, oui, oui, oui. C'est important. Enfin, il y a des films qui sont très, très construits à l'écriture, qui sont très construits aussi au tournage, et donc où la responsabilité, c'est plus une question de rythme et tout ça, mais tout compte finalement pour la narration. Le rythme compte pratiquement autant que la construction intellectuelle. C'est super important. Il y a des films où il se passe très, très peu de choses et où le rythme fait tout le travail de narration.
Pour expliquer à ceux qui connaissent pas du tout ce métier, comment ça se passe au quotidien? À quel moment du film vous intervenez?
Ben ça, on peut intervenir soit pendant le tournage, soit à la fin du tournage, mais le problème d'intervenir pendant le tournage, c'est que souvent, pour des raisons économiques, on tourne pas du tout dans l'ordre. Donc, c'est difficile de monter, je dirais, proprement, intelligemment, pendant le tournage, quoi. On fait un espèce, ce qu'on appelle le bout à bout, qui est un truc un peu maladroit, mais qui est censé refléter le scénario tel qu'il a été écrit. Et en fait, on reçoit les rushs. Alors les rushs, il y a plusieurs plans par scène, il y a plusieurs prises par plan. Normalement, le choix des prises, c'est de l'ordre du réalisateur, c'est de la mise en scène, normalement. Quand on connaît beaucoup les réalisateurs, quelquefois, ils laissent une certaine liberté dans le choix au départ, au moins pour faire le bout à bout. Enfin, moi, je travaille beaucoup sur des bout à bout que je fais tout seul, sans le réalisateur. Et après, quand ça plaît pas au réalisateur, il dit non, mais on peut revoir les rushs, prendre telle prise ou telle prise. On revoit ensemble le choix, quoi.
Pour moi, le monteur, il arrivait en fin de course, il est tout seul devant son ordinateur aujourd'hui.
Non, il est pas toujours tout seul, quoi. Il est souvent avec le réalisateur quand même. Ça dépend des réalisateurs. Il y a des réalisateurs qui sont plus ou moins investi dans le montage. Il y en a d'autres, c'est vrai que avec le numérique, c'est très ennuyeux d'être assis à côté d'un monteur, parce que c'est de l'ordinateur, on clique sur des touches comme ça à toute vitesse, on sait pas trop ce qu'on voit. En pellicule, il y avait toute une gestuelle, il y avait tout un truc de couper, coller et tout ça, mais on comprenait mieux ce qui se passait, à mon avis, parce que ça allait beaucoup moins vite.
Ça vous plaisait plus, cette façon de travailler?
Non, c'était différent. Non, je m'y suis fait. C'est vrai qu'avec la pellicule, il y avait un truc beaucoup plus physique. Mais en même temps, c'est vrai que le numérique est une espèce de dimension beaucoup plus synthétique qui est fantastique pour le montage, quoi. On peut essayer plein de choses. En pellicule, on réfléchissait à deux fois avant de couper, quoi. On se disait, après, la copie va être pleine de collures, on verra que des sautes, parce que les bouts de scotch, ça sautait dans le projecteur quand même. Donc, c'est exactement le même principe que le tournage. On compare les Russes et les Américains. Les Russes, Eisenstein, ils dessinaient les plans parce qu'ils avaient très peu de pellicules, donc il fallait pas qu'ils se plantent. Les Américains, ils avaient plein de pellicules, ils tournaient tout ce qu'ils voulaient dans tous les axes, sous tous les angles et tout. Et la différence de la pellicule et du numérique, c'est un peu ça aussi. C'est que en pellicule, il fallait plus réfléchir avant de couper. Maintenant, on peut ne pas réfléchir du tout, coller et puis voir ce que ça donne. Il y a une espèce de truc qui est à la fois en même temps plus surréaliste, que j'aime bien, moi, qui me plaît beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à m'y adapter à cause du déroulement, du défilement. Parce que la pellicule avec la croix de Malte, il y a un truc qui est proche des battements de cœur, qui est un truc physique.
C'est-à-dire la pellicule avec la croix de Malte?
Parce que ça défilait sur un rythme de 24 images comme ça, qu'on sentait qu'était une pulsion complètement humaine, sûrement. On sentait vraiment un truc physique. Au début, moi, je comprenais pas le déroulement en numérique. Je voyais pas comment ça marchait, comment ça se déroulait et tout ça. Et ça me gênait beaucoup, quoi. C'était pas humain pour moi, c'était magique.
Après, c'est une question d'habitude.
Question d'habitude, bien sûr. Et de toute façon, l'esthétique s'est transformée. C'est une nouvelle esthétique, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Et c'est pas un recul, c'est autre chose, quoi.
Vous avez gagné en temps aussi avec le numérique.
Alors, on a gagné un petit peu en temps, mais pas tant que ça, parce que finalement, on va plus loin. On essaye encore plus de trucs. Maintenant, on travaille beaucoup plus avec le son. Alors qu'avant, c'était très séparé. On faisait d'abord le montage image, ensuite le montage son. Maintenant, on fait un peu tout en même temps, quoi. Il y a des monteurs son, mais un monteur image, déjà, travaille beaucoup avec le son et la musique. Alors qu'avant, c'était à la fin, tout ça.
Donc, vous maîtrisez les deux. Vous vous occupez
oui,
du son.
Oui, j'ai fait du montage son aussi. Mais sur un film, maintenant, je monte pas. Je suis pas le monteur son. Je prends un monteur son parce que maintenant, avec le Dolby et tout ça, c'est des milliards de pistes et tout ça. Enfin bon, c'est très compliqué quand même. Donc, on prépare, on oriente le son. On donne une direction qui est celle du réalisateur, hein, en accord avec le réalisateur. Le truc du montage image, c'est qu'on est en permanence avec le réalisateur et qu'on a vraiment à la fois les intentions et l'écoute du réalisateur, quoi. C'est-à-dire que on sait ce qu'il faut faire. Donc le monteur image est capital dans toute la post-production après, quoi. C'est ça.
Ça vous aide à visualiser le film, d'être présent sur le tournage?
Pas du tout. Non, pas du tout. Non, ça c'est quelque chose. J'aime beaucoup. Hein. Il y a des gens avec Polanski, par exemple, le voir tourner, c'est magique. Il a la direction d'acteur, c'est éblouissant. Et on sent complètement ce qu'il raconte quand il donne des interviews, que c'est un truc d'enfant, quoi, complètement. Avec René aussi, on sentait ça. C'est un truc vraiment de. Roman, je me souviens au moment de, il avait fait une interview au moment de Tess, il disait c'est formidable d'être réalisateur parce qu'on va voir un producteur, on lui dit je voudrais faire une scène où il y a un train qui tombe dans une rivière et le mec vous donne l'argent pour faire ça. Il disait c'est vraiment un truc d'enfant, quoi.
Réaliser ses rêves.
Voilà, réaliser ses rêves, ouais, c'est ça. Et René était un peu pareil, était un enfant aussi, même à 90 ans, c'était hallucinant, quoi. Il avait des trucs vraiment enfantins. C'est ça qui est magique, c'est qu'on reste dans un univers très ludique, quoi, très passionnant.